Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu, le podcast des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse qui reprend toute l'actualité de la semaine. Emmanuel Macron a annoncé la préparation d'un projet de loi sur la fin de vie. Charlotte s'est penchée sur les contours de cette aide à mourir promise par le président. La Suède, la Lituanie ou plus récemment le Danemark, les budgets consacrés à la défense explosent en Europe. Paul nous explique pourquoi. Benjamin s'attarde lui sur la question des accidents au travail alors qu'a eu lieu cette semaine les assises de la santé et de la sécurité des travailleurs. Le tennis prépare-t-il sa révolution? Dans les coulisses, les patrons de ce sport discutent d'une modification profonde du circuit mondial. Pour sa première dans le podcast, Bastien nous éclaire sur la question. Et enfin, si vous souhaitez travailler à la télévision, vous pouvez passer par ce qu'on appelle une boîte de production. Louis vous dira tout ce qu'il faut savoir sur ces structures. Mais avant tout cela, on revient sur l'essentiel de l'actu de la semaine. On accueille Tristan pour le AFLUOT. La Corse fait un pas de plus vers son autonomie.
Après plus d'un an de négociations, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les élus corses. Le texte prévoit un statut d'autonomie de l'île, mais pas question de quitter le fanion français. L'État conservera la police, l'armée et la justice. La collectivité pourra par contre adapter des lois aux spécificités de l'île et en voter de nouvelles dans des domaines qui restent à définir. L'autonomie doit encore être votée par l'Assemblée de Corse, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Congrès, puis les Corses eux-mêmes. Le gouvernement espère une application de la réforme d'ici à la fin d'année. Changement de direction du côté de Mediapart. On savait depuis un mois qu'Edoui Plenel allait quitter son poste à la tête du site. On connaît désormais le nom de celle qui va lui succéder, Karine Fouteau. La journaliste travaille à Mediapart depuis sa création en 2008. Elle avait alors quitté le quotidien Les Échos.
Aux Pays-Bas, Geert Wilders ne sera pas Premier ministre.
Après sa large victoire aux élections législatives en novembre dernier, il aurait pourtant pu prétendre atteindre ce poste, un poste qu'il convoitait, mais Geert Wilders n'est pas parvenu à obtenir le soutien des partis politiques avec lesquels il tentait de former une coalition gouvernementale. Sur X, il a déclaré « Je ne peux devenir Premier ministre que si tous les partis de la coalition me soutiennent, ce n'était pas le cas ». Nouveau plan de soutien à Kiev voté par l'Assemblée nationale. L'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine prévoit le versement d'une aide de 3 milliards d'euros. Mais ce vote a été critiqué. Le RN évoque une instrumentalisation de la crise à des fins électoralistes. La France insoumise dénonce, elle, une logique qui favorise l'affrontement. Au micro d'Anne-Sophie Lapix et de Gilles Boulot, Emmanuel Macron n'a de son côté pas exclu un éventuel recours aux emprunts pour financer le soutien à l'Ukraine. C'était un bruit de couloir depuis quelques temps, c'est désormais officiel. Le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé, propriétaire du groupe CMA-CGM, a annoncé ce vendredi une promesse d'achat du capital d'Altice Media. Il récupérera donc BFM TV et RMC pour 1,55 milliard d'euros. Avec cette future vente, Altice pourra ainsi soulager son endettement.
La France devient le deuxième exportateur mondial d'armes derrière l'Inde.
Une position historique. Selon un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le pays vient de doubler la Russie au classement. D'un côté, la France a augmenté les ventes à l'étranger de 47% sur la période 2019-2023 par rapport à 2014-2018. Pour ça, elle peut dire merci aux rafales. Et dans le même temps, la Russie a réduit ses exportations de 53% à cause de la guerre en Ukraine.
Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique.
Moi, mais qui elle est celle-là?
Quelle indignité.
Cette semaine, le président de la République a ouvert la voie à une forme de suicide assisté, mais sous des conditions strictes. Charlotte, tu nous en dis plus sur cette aide à mourir.
C'est dans des entretiens publiés le 11 mars par La Croix et Libération qu'Emmanuel Macron a ravivé le débat sur le projet de loi sur la fin de vie. Le président de la République a évoqué des conditions strictes pour avoir accès à cette aide à mourir. En voici quelques exemples. En pratique, la personne devra elle-même s'administrer une substance létale, mais en cas d'impossibilité physique, cela pourrait être fait par un tiers ou bien par un médecin ou un infirmier.
On se demande aussi, Charlotte, qui peut avoir accès à cette aide à mourir?
Il faudra que ce soit avant tout des patients majeurs, capables d'un discernement plein et entier. Ces patients devront être atteints d'une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, et subissant des souffrances qui ne peuvent donc pas être soulagées. A l'inverse, d'autres seront exclus de cette aide à mourir. Ce seront les mineurs et les patients atteints de maladies psychiatriques ou neurodégénérative qui altère le discernement, comme l'Alzheimer par exemple.
Le président de la République a d'ailleurs annoncé que le projet de loi sera examiné à l'Assemblée nationale à partir de fin mai. A noter cependant que le processus parlementaire s'annonce long et l'aboutissement n'interviendra probablement pas avant 2025. 43 millions de personnes potentiellement touchées par un risque de divulgation de données personnelles après une cyberattaque contre France Travail le 13 mars.
Oui, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris. Trois jours plus tôt, une attaque informatique a ciblé des ministères qui n'a a priori aucun lien avec celle contre France Travail. Cette dernière ressemble par contre davantage à la cyberattaque qui a touché les mutuelles Viamedis et Almeris le 7 février.
Des images de l'émission de France 2 « Tout le monde veut prendre sa place » ont été retrouvées par le journal Marianne, mais pas n'importe lesquelles.
Ce sont celles de la participation d'un certain François Vérove en mai 2019. Rien de bien choquant jusque-là, mais deux ans plus tard, ce fameux François Vérove, un ex-policier dit Le Grélé, a confessé, avant de se suicider, être le tueur et violeur en série recherché depuis les années 80. Au total, ce sont 6 meurtres et 4 viols qui lui sont attribués sur des enfants et des adultes à Paris.
God save the king.
Sono una donna, sono una madre, sono italiana.
I have a dream. Be you. Be proud of you.
Cette semaine, le Danemark a annoncé augmenter de 5,43 milliards d'euros ses dépenses de défense lors des 5 prochaines années, Paul.
Oui, il aura fallu que la Russie envahisse l'Ukraine pour que les Européens comprennent enfin qu'ils étaient littéralement sans défense face aux menaces extérieures. Le Danemark entend montrer l'exemple aux autres membres de l'OTAN à l'heure où la Russie se montre toujours plus dangereuse. Copenhague répond à la menace lancée par Donald Trump s'il était réélu en tant que président des États-Unis. Début février, il a affirmé ne pas défendre les pays membres n'ayant pas consacré 2% de leur budget à la défense.
Et c'est l'Europe tout entière qui commence à faire exploser ses budgets en la matière.
Alors pas complètement, mais il y en a quelques-uns. Les pays nordiques et frontaliers de la Russie sont les premiers concernés. Tout d'abord, la Suède, qui a entamé un virage sécuritaire historique depuis l'invasion russe. Le budget de la défense devrait atteindre 9 milliards d'euros en 2024, soit le double de 2020. Sa voisine norvégienne a annoncé en février une augmentation de 20% de son budget militaire pour cette année par rapport à l'an dernier. Et maintenant, on se décale un peu plus vers l'Est, et notamment les pays baltes. Récemment, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie ont signé un accord destiné à renforcer leur défense le long de leur frontière avec la Russie. Oui, l'heure est bel et bien au réarmement sur le vieux continent.
Vous le savez probablement, 2024 est une année électorale particulière. 8 des pays les plus peuplés au monde organisent des élections. C'est le cas ce week-end de la mère patrie. Paul.
Oui, début de l'élection présidentielle russe ce vendredi 15 mars. La population aura jusqu'à dimanche soir pour aller déposer leur bulletin. Sachant qu'aucun opposant réel n'a été autorisé à se présenter, Vladimir Poutine devrait briguer un cinquième mandat, le troisième consécutif, et rester au pouvoir donc jusqu'en 2030.
La Bosnie-Herzégovine franchit une nouvelle étape vers l'adhésion à l'Union européenne.
La Commission européenne va recommander l'ouverture de négociations d'adhésion avec Sarajevo, a annoncé cette semaine Ursula von der Leyen. Candidate pour rejoindre l'UE depuis 2016, les négociations se sont accélérées après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Le Club des 27 en discutera lors de leur prochain sommet les 21 et 22 mars à Bruxelles.
Les assises de la santé et de la sécurité des travailleurs se sont déroulées mercredi et jeudi. Une initiative, Benjamin, de syndicats, d'associations, alors que les accidents au travail sont toujours aussi nombreux en France.
1227 personnes décédées au travail en 2022 en France, dont 738 à cause d'un accident. Des chiffres vertigineux publiés par l'assurance maladie. On peut aussi ajouter à ça les quelques 700 000 arrêts de travail annuels dans le pays. Premier secteur touché avec la moitié des accidents, le BTP, mais on peut aussi parler du milieu de l'industrie chimique, de la métallurgie ou même du secteur agricole, parmi les professions les plus accidentogènes. Des nouveaux travailleurs ont récemment rejoint les rangs des métiers à risque, les auto-entrepreneurs et plus précisément les livreurs à vélo ou en scooter, victimes de nombreux accidents de la route notamment.
Et Benjamin, ce nombre de 738 décès en 2022 ne reflète pas complètement la situation.
Oui, ce total, donc, qui ne diminue pas depuis 10 ans, est largement sous-estimé par rapport au nombre de morts au travail, parce qu'il ne prend pas en compte les décès dans la fonction publique, qui regroupe quand même près de 6 millions de Français, car pour cette branche de la population, le comptage est réalisé à part. Pour info, les moins de 25 ans ont 2,5 fois plus d'accidents au travail que le reste de la population, souvent dans des postes plus compliqués en tant qu'apprenti ou intérimaire, par exemple.
À noter que 18% des postes d'inspecteurs du travail sont vacants, ce qui empêche d'effectuer tous les contrôles sur le terrain et dans les entreprises françaises. L'URSSAF a été très efficace en 2023.
Oui, un record historique salué par le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave. 1,2 milliard d'euros de redressement a été opéré par l'URSSAF en 2023, déclaration de Gabriel Attal. 50% de plus qu'en 2021 et 2022. Objectif pour le ministre en 2027, atteindre les 5 milliards d'euros de redressement pour le travail dissimulé. A noter que le secteur du bâtiment, encore une fois, représente le premier domaine professionnel touché. 716 millions de redressement, soit 61% du total national.
Une entreprise historique baisse le rideau.
Et oui, c'est terminé pour Chausse Expo. La chaîne nordiste de magasins de chaussures disparaît ce vendredi. Sur ses 177 enseignes, le plus gros 71 sont reprises par un groupe familial Chaussea, deux par une enseigne de déstockage et une par un groupe haut de gamme. 239 emplois sont sauvegardés. Au total, 103 points de vente vont fermer et 376 personnes sont à partir d'aujourd'hui sans emploi.
Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Moi, tu me parles pas d'âge.
I recoup the ball.
Une révolution, voilà ce qui se prépare actuellement dans les coulisses du tennis mondial. En Californie, les principaux responsables du sport ont participé cette semaine à des réunions en marge du tournoi d'Indian Wells. Enjeu, Bastien, l'avenir du circuit mondial de tennis.
Deux grands projets s'opposent. Le premier est mené par Andrea Godenzi, le directeur du circuit masculin. Il envisage d'ouvrir la porte aux investisseurs saoudiens. En fait, les Saoudiens sont prêts à mettre 2 milliards de dollars sur la table pour fusionner les circuits masculins et féminins. Alors vous vous en doutez, hein, il y a forcément une contrepartie. C'est simple, ils veulent obtenir l'attribution d'un tournoi important dans le golf en tout début de saison.
Face à Godenzi et aux Saoudiens, et bien tout simplement les patrons des 4 tournois majeurs de la saison.
Exactement, les directeurs de Grand Chelem envisagent de créer un circuit fermé, un peu à la manière de la Formule 1 aujourd'hui. Pour rappel, actuellement, les joueurs de tennis sont libres de disputer tel ou tel tournoi. Et bien avec ce projet, le choix à la carte, c'est terminé. L'idée, c'est de créer une saison identique pour les 100 premiers joueurs mondiaux. Au menu, les 4 tournois du Grand Chelem, l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open donc, mais aussi 10 tournois importants.
Alors problème, certains tournois français pourraient être tout simplement mis de côté.
Les Masters 1000 de Paris et Monte Carlo, les ATP de Montpellier, Marseille, Lyon et Metz, tous ces tournois pourraient passer à la trappe. Alors forcément, c'est loin d'être une bonne chose pour le tennis français, mais bizarrement, ça ne semble pas inquiéter Gilles Moreton, le président de la Fédération Française de Tennis. Pour vous dire, il s'est même prononcé en faveur de ce projet. Circuit fermé d'un côté, investisseurs saoudiens de l'autre, ces projets sont-ils viables à long terme? Seront-ils soutenus par les joueuses et les joueurs? Face à ces questions, une seule certitude, l'égalité totale des dotations entre hommes et femmes, et ça, c'est un gros changement.
La 96e cérémonie des Oscars avait lieu le week-end dernier à Los Angeles, et cocorico, la France a été récompensée.
C'est la cerise sur le gâteau. Après les Césars et les British Awards, Anatomie d'une chute est primée aux Oscars. Justine Triet remporte le prix du meilleur scénario original, un scénario coécrit avec son compagnon Arthur Harari. Le film retrace le procès d'une mère accusée du meurtre de son conjoint. Pour le reste de la cérémonie, Oppenheimer repart avec 7 statuettes, dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisation. 0 pointé en revanche pour le film Barbie.
C'est une première entre un média français et un acteur majeur de l'IA. Un accord vient d'être signé.
Un accord de partenariat entre le journal Le Monde et la société d'intelligence artificielle OpenAI. Voilà ce qui a été conclu cette semaine. Cet accord s'inscrit dans la durée puisqu'il s'étendra sur plusieurs années. Il permettra à la société de s'appuyer sur le corpus du journal pour établir et fiabiliser les réponses de ChatGPT. En contrepartie, le quotidien bénéficiera, je cite, d'une source significative de revenus supplémentaires.
Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
Colline, c'est quoi ton journal préféré?
Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander?
À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu.
Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous.
Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
Aujourd'hui, Louis, tu reçois Damien qui va nous expliquer ce qu'est une boîte de production.
Le 13h15 sur France 2, les reportages Arte, autant de longs formats que j'apprécie comme une partie d'entre vous j'imagine, mais attention, ce n'est pas forcément réalisé par la rédaction. En fait, ce sont ce qu'on appelle dans le jargon les boîtes de prod qui démarchent les antennes. Salut Damien, toi tu es en 3e année à l'école et tu es en stage dans une de ces entreprises audiovisuelles à Toulouse. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire quelle différence tu as notée par rapport au fonctionnement d'une antenne nationale ?
Bah la vraie différence c'est qu'en fait tu fais tout, tout simplement, genre il n'y a pas de statut de JRI, de statut de rédacteur. Dans ma boîte de prod par exemple, on est tout petit, genre on est 4, et du coup tu fais de tout. Tu vas de la production à la réalisation, à l'enquête, au démarchage qui est hyper important. En fait, tu vis tous les sujets. Tu vis tout ce que tu fais dans la rédaction et c'est impressionnant.
Et concrètement, sur le terrain, ça te change quelque chose ou pas ?
En fait, tout change. T'as la possibilité de rester sur le long terme. Et c'est là que tu te rends compte que c'est pas du tout le même travail. En fait, quand t'es sur le terrain, tu vas parler aux gens, tu vas vraiment les connaître. Et quand tu vas même penser tes plans, tu vas te dire « là ». Je représente vraiment la personne avec qui je parle et que je connais. Tu rentres vraiment dans le quotidien des gens, en fait. Et ça, c'est vraiment génial, parce que c'est souvent ce qui nous manque dans la télé en temps normal, c'est de se dire d'avoir le temps et de parler aux gens.
Merci Damien, on espère avoir un peu plus éclairci cette facette encore méconnue de notre métier. Mais attention, on vous prévient, même si vous êtes habitué, le boulot est assez précaire.
Merci à tous les chroniqueurs pour leur participation et surtout, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci aussi à Valentine à la régie aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode, mais je vous rassure, on se retrouve samedi prochain pour de nouvelles actualités. D'ici là, bonne semaine et à bientôt.